des sujets qui vous interpellent. Voici Jean-Luc Mongrain.
On retrouve Luc Lavoie, qui est un analyste politique, bien sûr, mais surtout un gars de terrain et d'expérience pendant des années. Il a été au fédéral, à la politique fédérale, bien sûr. Et là, je veux savoir, Luc Lavoie, bonjour d'abord.
Salut, Jean-Luc.
Si tu es héréditaire de devenir ambassadeur du Canada à l'ONU, parce que Bob Rae, son père, le fut ouais, également.
Saul Rae, son père, a été ambassadeur. C'était un diplomate de carrière, donc il a été ambassadeur à divers endroits, dont aux Nations Unies pendant 4 ans, mais il avait aussi été ambassadeur à Genève à la conférence permanente sur le désarmement et aux institutions des Nations Unies qui sont situées à Genève. Donc Bob Rae a grandi dans ça. Il a grandi dans ça, puis avec les études qui viennent avec, c'est-à-dire que quand t'es fils de diplomate, tu vas forcément dans des écoles privées, puis tout ça. C'est ce qui fait qu'il parle français. Il a été à l'École internationale de Genève. Bob Rae, c'était un gars extrêmement intéressant. Je le connais personnellement très bien, même. J'ai travaillé avec lui dans un très gros dossier à un moment donné, quand j'étais consultant et que lui était dans une grande firme d'avocats de Toronto. Un gars extrêmement brillant. Un gars qui a fait un drôle de parcours politique, parce que il a commencé avec les libéraux de Trudeau quand il était fort jeune. Il avait 18 ans, puis il posait des pancartes dans un comté de Toronto. Puis aussi, il avait été délégué des jeunes libéraux lors du congrès au leadership qui avait élu Pierre-Éliott Trudeau. Alors, Bob Rae va devenir ambassadeur aux Nations Unies à un moment où le Canada vient de manger une bonne claque le long d'une oreille.
Bon, là, je veux te parler de ça. On va revenir à Bob Rae, juste parenthèse. Marc-André Blanchard paye-t-il le prix de l'incapacité du gouvernement Trudeau d'obtenir un siège aux Nations Unies? Et puis, on dit, tiens, on change le coach, mais c'est de la faute des joueurs.
Non. D'abord Marc-André Blanchard, et il se trouve que je le connais aussi très, très bien. Marc-André Blanchard a annoncé qu'il quittait ses fonctions à l'été 2020. Il l'a annoncé en décembre dernier, je pense. Alors, non, je pense pas qu'il paye le prix. On dit même de Marc-André qu'il a fait plutôt un bon travail aux Nations Unies.
Tout à fait. Est-ce que Bob Rae va nous redorer le blason suffisamment pour qu'un jour, on revienne au Conseil de sécurité?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit Bob Rae ou l'homme le plus brillant de la Terre ou le retour d'Einstein. Le problème n'est pas là du tout.
Il est où?
Le problème, tu as 54 pays en Afrique. Et la plupart ont été achetés par la Chine. Quand je dis achetés, là, la Chine arrive dans des pays en Afrique, ils mettent la main sur le minerai, ils s'entendent avec le gouvernement en place, ils construisent un port de mer, une ligne de chemin de fer, ils construisent toujours un hôpital très grand et très moderne. Ils construisent également pour le peuple où ils vont s'installer un immense stade de foot, de soccer, comme on dit ici, de 40 000 places. Ça, c'est les Chinois rentrent en Afrique, ils ont besoin des ressources naturelles de l'Afrique. Tout le monde avait négligé l'Afrique dans les dernières années. Alors, quand tu es dans un différend diplomatique avec la Chine, tu pars avec moins 54, parce que la Chine dit à ses vassaux, vous allez voter comme ça. Alors, quand tu pars de même, ça va pas trop bien.
Écoute, quand en plus, j'aime beaucoup l'éclairage que tu nous amènes là, parce que effectivement, la Chine est en train d'étendre ses tentacules un peu partout, et les pays en voie de développement sont les premiers territoires visés par l'expansionnisme chinois.
Ah ben oui, tout à fait. Écoute, quand je dis « ils achètent l'Afrique », c'est pas une métaphore.
Pas une figure de style, non.
Non, ils le font littéralement. Je l'ai vu de mes yeux, Jean-Luc. Tu arrives à l'aéroport qui est bien moderne, tu vois l'hôpital qui est pas très loin, tu vois ton stade de foot, puis là, tu vois un port de mer ultra moderne. Ils font ça partout. Ils font ça partout en Afrique. Et ils achètent le sol. Je veux dire, il y a des droits de propriété qui s'appliquent. Ils achètent le sol. Donc, l'Afrique devient totalement dépendante de la Chine, alors que nous, les Occidentaux, on avait un peu tourné le dos à ça, on était fatigués des dictateurs, des républiques de bananes, puis tous les mots qu'on utilisait, mais on réalisait pas ce qu'on laissait entre les mains de notre adversaire potentiel, qui est maintenant vraiment notre adversaire, la Chine. Et bon, on revient au vote aux Nations Unies.
Oui,
moins 50, tu pars à moins 54. Ensuite de ça, tu as l'Inde, qui a pas trop apprécié le voyage de M. Trudeau avec ses amis sikhs qui avaient participé au mouvement indépendantiste en Inde. L'Inde, c'est non. L'Inde, c'est également très influent. OK? C'est le deuxième pays en population au monde. C'est une des économies qui a la plus forte croissance du monde. Là. Évidemment, il y a la pandémie, là, mais en gros, ça, c'est l'Inde. Ils veulent rien savoir. Ils voteront pas pour le Canada.
Ça veut dire que quand Bob Reid dit hier en conférence de presse, il faut régler les problèmes chez nous, mais il faut les régler aussi à l'extérieur pour les grands défis que nous avons tous sur la planète, mondialement, l'environnement, etc., etc. Mais on a un problème de perception ou d'activité dans le monde au Canada.
Bon, on a un problème d'affaires étrangères, je veux dire, je vais être bien clair, là. Justin Trudeau, sur le plan des affaires étrangères, a carrément été un désastre. La seule relation qu'il a réussi à gérer à peu près correctement dans des circonstances folles, c'est la relation avec les États-Unis, et grâce à cette façon qu'ils ont eue, cette stratégie adoptée par le Canada et beaucoup... grâce à Chrystia Freeland, qui était ministre des Affaires étrangères.
Qui a fait un travail
absolument superbe. À part cette relation-là, qui est une relation bizarre, tu sais, qu'est-ce que tu veux, on peut pas faire autrement qu'être en relation avec le pays qui est notre seul voisin. À part ça, toute la politique étrangère de Trudeau a été un désastre. Tu prends l'Afrique, il voulait des sièges, il voulait un siège au Conseil de sécurité des Nations unies, il avait besoin de ces votes-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé l'aide internationale à l'Afrique. Tu te demandes à un moment donné, où est-ce qu'il vit ce jeune homme-là? Je ne comprends pas vraiment. Maintenant, ça ne veut pas dire que n'étant pas au Conseil de sécurité, qu'on n'a pas un rôle, que l'ambassadeur du Canada aux Nations unies n'a pas un rôle à jouer. Et je m'explique. Aux Nations unies, c'est généralement là que les pays qui ont des différends entre eux se parlent en coulisses. Personne n'est là pour les voir.
C'est vrai. C'est derrière le rideau là, que se passent véritablement les négos. Hein?
Et il faut, oui. Et il faut savoir que la plupart des pays du monde envoient aux Nations unies comme ambassadeur le meilleur de leurs diplomates. Tu sais, au Canada, on a eu Yves Fortier, des plus grands avocats des 50 dernières années.
Qui a fait un travail exceptionnel.
On a eu Stephen Lewis, qui a été aussi nommé ambassadeur aux Nations unies par Mulroney, qui était l'ancien chef du Parti néo-démocrate.
Et il y a Luc Lavoie aussi, qui a des qualités de diplomate de façon extraordinaire, Luc.
C'est bien connu, tu le sais, Jean-Luc. Salut, moi, Luc. Ça me vient naturellement.
C'est naturellement, toi. C'est transcendant même. Merci beaucoup, Luc.
Salut.
Bye-bye, au revoir. Marie-Claude Lavallée, de quoi on parle?
Bonjour, bonjour.
Que le Québec se lève.
Québec maintenant?
Maintenant.
Oui.
Je sais, mais c'est maintenant qu'il se lève.
C'est vrai pour ceux qui sont en vacances
oui.
Ou qui font le party, alors que c'est pas le temps de faire les parties à plus que quelques personnes seulement. Et oui, je regarde quelque chose que tu me montres en ce moment. Arrête un peu. Là, erreur d'émission. Eh bien, écoute, dans ça, là, que je vais me lever de bonne heure demain matin, mais je ne suis pas sûre. Enfin, Louis Lacroix est supposé être là, de toute façon. Alors, on revient sur ce fameux party à Saint-Chrysostome qui a dégénéré un petit peu, comme on le sait, puis qui est en train de causer des cas de COVID. Il y a un voisin ou une voisine, je fais exprès pour dire ça, parce qu'on a camouflé la voix, parce que la personne ne veut pas être identifiée, qui a appelé la police
bien.
La police n'est pas venue. Éric Dupond-Moretti, ça dit quelque chose?
Ben oui.
En France, c'est le méga, méga, méga avocat de la défense, là, pénaliste hyper, hyper connu. Ben, il est nommé ministre de la Justice.
Oh.
Et c'est aussi, là, on peut le dire parce que c'est en pleine page journal, c'est aussi le copain depuis 4-5 ans d'une très discrète chanteuse ici.
Tout à fait. Isabelle Boulay.
Voilà. Et puis, on va évidemment parler de notre ami, l'ami de M. Trump, Bolsonaro, qui a testé positif à la COVID. Ah, lui, du coup, il a déjà donné des médicaments, antibiotiques, puis l'autre affaire de chlorhydrotrypatum de Dine, là, tu sais, bon. Et qu'il allait super bien, la vie est belle.
Un petit refroidissement.
Petit refroidissement, oui. J'ai hâte de voir surtout comment Trump va réagir en voyant son ami Bolsonaro peut-être porter le masque, parce que je pense qu'il le portait depuis quelques jours, alors qu'on s'entend que pour les admirateurs de Trump et pour M. Trump lui-même, je pense que porter le masque, c'est pas très viril. Là.
Ah non, non, c'est pas...
Et c'est très démocrate.
C'est très démocrate.
Et c'est très CNN.
C'est pas bon, ça.
Ah non.
On vous écoute avec plaisir, Marie-Claude. Merci beaucoup.
Merci, Jean-Luc.
On poursuit tout de suite après les pauses qui viennent.